Franck. Bonjour Augustin Trapenard.
Salut Patrick, bonjour à tous.
Votre invitée est l'une de nos plus grandes comédiennes. Elle a participé le 1er mai dernier à un rassemblement d'artistes pour faire barrage au Front National.
Dominique Blanc, qui à ce micro, il y a quelques mois, réaffirmait le besoin et la force du collectif, c'est l'artiste. La citoyenne, la vigie aussi, que je reçois aujourd'hui pour nous offrir un petit peu de distance, de hauteur, de lumière. Bonjour Dominique Blanc.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes levée ce matin ?
Alors, ce matin, je me suis levée très soulagée. Soulagée majuscule parce que barrage et barrière est fait au Front National. Et puis, je pense qu'il faut espérer aussi le plus possible. On a eu une campagne présidentielle, ma foi, dont on n'a pas vraiment eu les vrais thèmes, la vraie profondeur de tout ce qu'on attendait. Peut-être qu'au moment des législatives, ces vrais débats auront lieu entre toutes les différentes sensibilités politiques. En tout cas, on a besoin d'entendre, non pas enfin, on a envie de s'élever, voilà.
Cela dit, Dominique Blanc, le score du Front National, on l'a dit, ce matin n'a jamais été aussi élevé. Le 1er mai dernier, je le disais, vous avez participé à une soirée au Théâtre des Bouffes du Nord contre ce parti qui réunissait une vingtaine d'artistes. Romane Boringer, Charles Berling, Juliette Armanet, Annette Messager ou encore Charles Boltanski. Quel rôle, à votre avis, sous ce nouveau quinquennat, ont-ils à jouer, les artistes, les intellectuels ?
Les artistes ont un rôle essentiel qui est un rôle qui consiste à rester éveillé, à rester présent. Et présent dans la cité, je dirais, c'est le comédien ou la comédienne a un rôle citoyen. Je pense qu'on a des responsabilités par rapport au public. Il s'agit pas d'amuser pour amuser. Je pense qu'il faut réfléchir, aller vers des auteurs contemporains qui font réfléchir. Je pense que le théâtre est un forum magnifique, citoyen, où la pensée n'est pas interrompue, où le public de tout âge et de toute condition sociale peut se réunir. Ça peut être à la Comédie Française, ça peut être ailleurs aussi, ça peut être en banlieue, ça peut être partout. Mais si vous voulez, pour moi, le théâtre, c'est vraiment le lieu de la pensée, de la réflexion, de l'échange. La pensée vous est livrée par un auteur, et puis après, forcément, il y a contradiction. Il y a débat, il y a appel, il y a des gens qui ne vont pas être d'accord. Mais il y a ce qui se passait sur le Forum Latin, quoi. Et je crois que c'est ça qui nous manque. J'ai l'impression que les gens ont vraiment beaucoup besoin de parler, et ils ont le sentiment qu'on ne les entend plus.
Et la possibilité aussi, dites-moi si je me trompe, de créer du lien, de franchir des ponts entre les individus, les cultures. Il se trouve que le texte que vous avez choisi de nous lire ce matin, Dominique Blanc, c'est un texte qui s'appelle « Franchir un pont ».
Oui.
Un texte de l'intellectuel, historien-anthropologue Jean-Pierre Vernon, qui lui avait été commandé pour le 50e anniversaire du Conseil de l'Europe. Avant d'en parler, on vous écoute.
Franchir un pont. Passer un pont. Traverser un fleuve, franchir une frontière, c'est quitter l'espace intime et familier où l'on est à sa place pour pénétrer dans un horizon différent, un espace étranger, inconnu, où l'on risque, confronté à ce qui est autre, de se découvrir sans lieu propre, sans identité. Polarité donc de l'espace humain fait d'un dedans et d'un dehors. Ce dedans, rassurant, clôturé, stable, ce dehors, inquiétant, ouvert, mobile. Les Grecs anciens les ont exprimés sous la forme d'un couple de divinités, unies et opposées, Hestia et Hermès. Avec H pour Hestia, H pour Hermès. Hestia est la déesse du foyer, au cœur de la maison. Elle fait de l'espace domestique qu'elle enracine au plus profond, un dedans, fixe, délimité, immobile, un centre qui confère au groupe familial, en assurant son assise spatiale, permanence dans le temps, singularité à la surface du sol, sécurité face à l'extérieur. Autant Hestia est sédentaire, refermée sur les humains et les richesses qu'elle abrite, autant Hermès est nomade, vagabond, toujours à courir le monde. Il passe sans arrêt d'un lieu à un autre, se riant des frontières, des clôtures, des portes, qu'il franchit par jeu à sa guise. Maître des échanges, des contacts, à l'affût des rencontres, il est le dieu des chemins où il guide le voyageur, le dieu aussi des étendues sans route, des terres en friche où il mène les troupeaux, richesse mobile dont il a la charge, comme Hestia veille sur les trésors calfeutrés au secret des maisons. Divinités qui s'opposent, certes, mais qui sont aussi indissociables. Une composante d'Estia appartient à Hermès, une part d'Hermès revient à Estia. C'est sur l'autel de la déesse, au foyer des demeures privées et des édifices publics, que sont, selon le rite, accueillis, nourris, hébergés, les étrangers venus de loin, hôtes et ambassadeurs. Pour qu'il y ait véritablement un dedans, encore faut-il qu'il s'ouvre sur le dehors pour le recevoir en son sein. Et chaque individu humain doit assumer sa part d'Estia et sa part d'Hermès. Pour être soi, il faut se projeter vers ce qui est étranger, se prolonger dans et par lui. Demeurer enclos dans son identité, c'est se perdre et cesser d'être. On se connaît, on se construit par le contact, l'échange, le commerce avec l'autre. Entre les rives du même et de l'autre, l'homme est un pont.
Franchir un pont, de Jean-Pierre Vernon, ce texte qui est inscrit parmi d'autres sur une borne du pont de l'Europe qui relie Strasbourg à Kiel, un texte que vous pouvez retrouver dans La traversée des frontières publiée aux éditions du Seuil. Pourquoi vous l'avez choisi, ce texte-là, Dominique Blanc ?
C'est un texte que j'aime depuis très longtemps et que j'ai découvert. C'est un texte qui symbolise la réconciliation franco-allemande au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, nous sommes le 8 mai. Nous fêtons aussi le 8 mai 1945. C'est un texte qui parle de l'Europe. Et je crois beaucoup à l'Europe. Je pense qu'Emmanuel Macron en a parlé hier à plusieurs reprises. Je pense qu'il y a un espoir de la jeunesse envers l'Europe. Et que justement, c'est cette ouverture qui est souhaitable. C'est se construire avec l'autre. C'est grandir avec l'autre, avec ce qui est étranger, ce qui est connu, mais qui fait aussi qu'on se dépasse. Et ne pas rester enclos dans son identité, totalement refermé, totalement replié sur soi. Je pense que c'est un choix d'ouverture. Il est important pour toutes les générations, et particulièrement pour notre jeunesse, qui est, je crois, avec les Erasmus, qui existent depuis une trentaine d'années, si vous voulez, une identité culturelle européenne qui existe véritablement. J'ai l'impression parfois que la jeunesse, les 15, 25, 30 ans, sont engagés dans l'Europe, parfois encore davantage que la classe politique. Et ça me paraît très important, cet enracinement-là. Tout comme me paraît aussi évidemment très important et très inquiétant l'enracinement du Front National.
Mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour, à l'instar d'Hermès, dans ce texte, se jouer, se rire des frontières, des clôtures, des portes, comme l'écrit Jean-Pierre Vernon ? Quelle est la clé ?
La clé, c'est d'aller vers le risque, d'aller vers l'inconnu. René Char disait « Comment vivre sans inconnu devant soi ?» Voilà, je pense qu'il y a une très grande attente actuellement, l'attente des législatives, mais une attente tout court. Dans ces cas-là, on a besoin des anciens. Et Jean-Pierre Vernon, Paul Venn sont des gens qui étaient professeurs au Collège de France, qui sont des grands cerveaux, qui ont une extrême réflexion. Jean-Pierre Vernon a été un grand helléniste et tout d'un coup retourné aux Grecs, aux dieux de l'Olympe, bon, évidemment auxquels on ne croit plus, mais c'est s'éclairer de cette intelligence-là et de cette culture qu'on peut avoir perdue et qu'il faut retrouver.
La culture, on l'a un petit peu perdue pendant cette campagne, on en a assez peu parlé. Qu'est-ce que vous attendez, vous, du nouveau président en matière de politique culturelle, notamment Dominique Blanc ?
Alors écoutez, Emmanuel Macron a prononcé le mot culture par deux fois dans ses discours. On en attend beaucoup puisque le mot culture a été totalement absent de toute la campagne présidentielle. Et c'est vrai qu'au moment des législatives...
C'est quand même le premier point de son programme avec l'éducation pour lui
voilà.
Rendre au moins cette justice.
Je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est pour ça que j'ai parlé de la jeunesse aussi. En termes de ministre de la culture, j'ai évidemment pas de...
Ah si !
Non, j'ai pas de personnage idéal, mais j'ai une grande attente. C'est une attente de compétence, par-dessus tout, une attente d'excellence. J'ai envie, plus largement, si vous voulez, que la classe politique retourne au théâtre, qu'il se mêle aux citoyens, qu'ils prennent le RER, qu'ils prennent le train, qu'ils prennent le métro. Je pense que la classe politique s'est beaucoup trop repliée sur elle-même. On le voit et on l'a entendu aussi. Et il faut profiter des législatives pour que les vrais thèmes profonds soient abordés, soient débattus, soient échangés, même s'il y a, et surtout s'il y a débat. Et ce ministre de la Culture-là, à mon avis, a beaucoup de travail.
Possiblement un artiste ?
Ça serait merveilleux, pourquoi pas ? Il faut une compétence avant tout, je crois. Il faut quelque chose de très concret. Et il faut des gens qui soient à la fois au théâtre, à la fois au cinéma, à la fois dans les musées. Il faut qu'il y ait une présence. Et que le pouvoir politique ne soit pas quelque chose qui est à Paris enfermé dans un hôtel particulier.
Merci infiniment, Dominique, pour cette parole ce matin. Tout en hauteur, en lumière, je rappelle que vous êtes sur scène au Théâtre de l'Odéon, dans Le Testament de Marie de Colm Tolbin, mise en scène par Deborah Warner jusqu'au 3 juin. Donc, on en reparlera évidemment sur cette chaîne à coup sûr. Avant de se quitter, vous avez choisi d'entendre une chanson de Charles Trenet, Revoir Paris. Pourquoi cette chanson ?
Alors, cette chanson, parce que quand la France a été libérée, Charles Trenet raconte, c'est une anecdote, qu'il est retourné et qu'au moment où il allait atterrir sur Paris, il a eu envie de cette mélodie et de ces mots. Et je trouve que c'est important de célébrer Paris, ville des Lumières. Paris, la plus grande, plus belle ville du monde, qui a été abîmée il y a peu par le terrorisme. Et là, c'est une espèce de chanson de réconciliation de tous.
Alors, on va revoir Paris.
Revoir Paris.
On l'écoute.
Revoir Paris. Un petit séjour d'un mois. Revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard, prendre un taxi qui va le long de la Seine. Et me revoici au fond du bois de Vincennes, roulant joyeux vers ma maison de banlieue où ma mère m'attend, les larmes aux yeux, le cœur content. Mon Dieu, que tout le monde est gentil. Mon Dieu, quel sourire à la vie. Mon Dieu, merci, mon Dieu, merci d'être ici.
Revoir Paris, Charles Trenet, chanson de 1947, composée au retour d'une grande tournée de Trenet en Amérique. Merci Augustin Trapenard, on vous retrouve demain pour Boomerang à 9h10.
Oui. Avec l'humoriste Blanche Gardin.
Oh là, il y aura plein de gros mots alors.
Pas trop, parce que vous me connaissez, je suis très très...
Ah oui, d'accord. Bon, on fera attention. Merci à vous et à demain. Merci beaucoup Dominique Blanc.